Show.
BFM Business présente. Lorraine Goumeau. 90 minutes business avec vous. La libre antenne de l'économie.
C'est BFM Business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vous l'avez entendu, c'est tous les jours à 13h en direct, à la radio, à la télé, sur YouTube, LinkedIn, Twitter et Facebook. Et bonjour à vous qui nous écoutez peut-être en podcast. Aujourd'hui, on va, comme tous les jours, en deux temps, un, recruter, deux, répondre à vos questions. Le sujet des 13h15, 13h16, ce sera faire faillite et rebondir. Nous serons avec un mandataire judiciaire pour répondre aux questions que vous nous avez envoyées, aux situations parfois difficiles mais pleines d'espoir. Bien sûr, vous pourrez continuer à nous écrire en direct pendant le live sur les différents réseaux sociaux ou bien à notre adresse, vous savez, avec vous à bfmbusiness.fr. Je suis aussi joignable sur LinkedIn pendant le direct si vous voulez m'écrire. Vous recrutez, ça se passe dans une minute. Aujourd'hui, on va recruter dans l'optique, vous allez voir, un secteur qui a besoin de gens, mais aussi dans la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, un groupe, le groupe APAF, qui recrute 1600 personnes. Vous aussi, venez pitcher vos besoins d'emploi, vos besoins de candidats. Vous êtes candidat, vous êtes candidate, vous êtes intéressé par les recruteurs qui sont avec nous en direct, eh bien, écrivez-moi, écrivez-nous. On leur posera vos questions. Vous pouvez réagir sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, tout au long de l'émission. Notre première recruteur, c'est une recruteuse, c'est Ève Masson. Bonjour Ève.
Bonjour Lorraine.
Merci d'être avec nous. On parlait d'optique puisque vous travaillez pour les opticiens mobiles. Vous êtes directrice du développement franchise de cette entreprise que je vais vous laisser pitcher. Je vous donne un indice, l'entreprise vient de Lyon. Et Ève, je vous laisse pitcher pendant une minute pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, les opticiens mobiles.
Merci Lorraine. Eh bien, les opticiens mobiles, c'est une société qui est un regroupement d'opticiens, un collectif pour pouvoir amener la santé visuelle à des gens qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se déplacer, que ce soit sur leur lieu de vie ou leur lieu de travail. On va intervenir auprès d'actifs, on va intervenir auprès de personnes fragiles, auprès de personnes en situation de handicap. Notre entreprise a été créée en 2015. Aujourd'hui, eh bien, on grandit de plus en plus. Nous sommes plus de 100 personnes avec une trentaine de personnes au siège pour les services support et puis nos opticiens sur le terrain qui dispensent la santé visuelle. Donc c'est vraiment un très beau challenge et une très très belle mission que nous avons. D'ailleurs, nous sommes société à mission, acteurs de l'économie sociale et solidaire dans la façon dont nous pratiquons le métier. On a créé un nouveau métier, opticien mobile, coordinateur en santé visuelle. Et effectivement, bah, comme en magasin, nos opticiens vont proposer des équipements lunettes, lunettes de soleil, des systèmes de sécurité, équipements de sécurité pour les personnes qui travaillent, et puis tout ce qui est en lien avec la basse vision. Aujourd'hui, notre croissance sur ces dernières années est de plus de 120% sur un marché avec un chiffre d'affaires potentiel de 800 millions d'euros.
Ouais, c'est 800 millions d'euros, c'est le marché de l'optique à domicile.
Exactement.
Ou au bureau, on va dire, c'est-à-dire en dehors des boutiques.
Voilà, donc il y a l'optique en magasin et il y a ce potentiel qui est là. Des besoins qui sont réels, qui ne sont pas forcément avec une réponse en face. Mm-hmm. Et là, c'est tout le sens de notre mission aujourd'hui.
Mobilité, c'est le mot-clé parce qu'effectivement, vous coordonnez, donc il y a votre équipe interne et puis il y a 80-100 opticiens, opticiennes que vous articulez comme ça dans toute la France et vous recrutez. C'est pour ça que vous êtes avec nous ce midi, Ève. Donnez-nous précisément vos besoins en recrutement. Est-ce que c'est côté justement support, équipe corpo ou vous cherchez des opticiens, des opticiennes?
Alors, en premier lieu, on cherche des opticiens. L'idée, c'est vraiment de faire un maillage d'hyper-proximité. Donc, ce sont des opticiens qui aiment profondément leur métier, qui ont envie de le vivre différemment à travers notre proposition de valeur, qui sont attentifs au bien-être de la personne, qui sont des gens empathiques, à l'écoute, vraiment toujours tourner vers les attentes et les besoins et qui vont amener des solutions justement à ces populations qui n'ont pas la possibilité d'aller en magasin. Il faut le BTS opticien lunetier, c'est indispensable. Il faut le permis conduire, bien entendu. On recherche des gens qui sont audacieux, qui ont envie, qui s'intéressent à l'humain avant tout, et ça c'est fondamental chez nous. On recherche aussi des gens qui sont débrouillards, parce qu'effectivement, aller rencontrer les gens, rentrer dans l'intimité, c'est complètement différent
dans
de la relation
du magasin. À la maison, mais aussi on pense aux seniors qui sont en EHPAD chez eux, mais aussi dans des résidences particulières. Quels sont les autres endroits où on se retrouve à aller physiquement quand on est opticien mobile?
Alors, on va se déplacer effectivement au domicile des personnes, on va se déplacer de temps en temps en entreprise quand la demande est faite. On va se déplacer dans les établissements médico-sociaux, que ce soit les EHPAD, que ce soit les hôpitaux long séjour, que ce soit les établissements pour les personnes en situation de handicap, que ce soit lieu de travail ou lieu de vie. C'est variable et ça change tout le temps. C'est vraiment très intéressant.
Alors, en deux mots, vous recherchez aussi pour vos fonctions support à Lyon. Listez-nous comme ça rapidement, Eve, les postes qui sont à pourvoir. Je ne sais pas, peut-être côté compta, audit.
Aujourd'hui, on recherche sur le terrain pour l'année 2023 80 opticiens. Et puis, effectivement, ben, plus notre famille d'opticiens va grandir, plus nous aurons besoin de développer les équipes support.
Et oui.
Donc, on va avoir besoin de personnes au niveau de l'offre, au niveau du marketing, de la communication, au niveau de l'équipe commerciale, au niveau, effectivement, de tout ce qui est autres services support indispensables, l'atelier, les différentes missions qu'il y a dans notre entreprise.
Voilà, on va continuer à faire le portrait de votre entreprise quand notre deuxième recruteur va nous rejoindre. Je vais vous poser quelques autres questions. Mais d'abord, parlons territoire. Enfin, pour conclure, parlons territoire. Quels sont les endroits où vous avez le plus besoin de gens pour vous rejoindre? Est-ce que c'est autour de Lyon? Est-ce que c'est ailleurs en France?
Alors, on a besoin d'opticiens partout en France, avec quelques zones prioritaires. Le Périgord, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, aujourd'hui le Cher, globalement dans ces, le Cantal bien sûr.
Voilà. Le Cher, le Cantal, le Périgord, les Alpes de Haute-Provence, voilà un peu les urgences, parce que voilà, il faut équiper les Français partout en France. Une adresse pour postuler, c'est hello@lesopticiensmobiles.com. Vous avez évidemment le site lesopticiensmobiles.com où vous allez retrouver l'ensemble des postes à pourvoir. On l'a dit, hein, à peu près 80 opticiens, opticiennes, et puis fonctions support aussi pour les équipes, et continuer à grossir. Vous restez avec nous, Eve, on va accueillir notre deuxième recruteur. Pendant qu'il arrive, je vous donne un chiffre. On a passé la barre des 80 000. 80 034, eh bien, c'est le nombre de postes qui ont été pourvus sur notre antenne avec BFM Business avec vous depuis le début de la saison, comme on dit à la télé, à la radio, depuis la rentrée du mois de septembre. Vous recrutez, eh bien, vous aussi, vous venez pitcher votre entreprise comme Eve. Vous cherchez des candidats, des candidates. Vous venez nous raconter l'histoire économique de votre boîte, pourquoi elle recrute, comment elle recrute, où est-ce qu'elle recrute. Et nous, eh bien, on vous aide. Vous pouvez réagir en direct, LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook et l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Vous pouvez aussi me questionner en direct sur LinkedIn. Si vous avez des questions pour Eve, eh bien, je lui pose. Sans transition, on change de secteur, mais ça recrute toujours. Sécurité des personnes, des biens et aussi protection de l'environnement. C'est le large scope dans lequel APAV, dont Philippe Maillard est le directeur général, évolue. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous êtes notre deuxième recruteur. Une entreprise assez vieille, je vais le dire comme ça. 1867, vous êtes basé du côté de Courbevoie. Vous êtes avec nous pour parler de vos besoins en recrutement. D'abord, je vous laisse pitcher 45, une minute. Philippe, APAV, en quelques mots.
Oui, bah écoutez, APAV est un groupe international de plus de 150 ans, avec un barycentre français historique, qui comporte aujourd'hui près de 13 000 collaborateurs et qui travaille dans le domaine de la maîtrise des risques. Alors très concrètement, ça veut dire que nous aidons nos clients, qui sont les collectivités locales, les entreprises de toute taille, de la PME, TPE au grand groupe, à protéger, à gérer leurs biens, à gérer la sécurité de leurs personnes, à maîtriser leur environnement. Et finalement, nous les accompagnons dans les transitions que nous vivons aujourd'hui, typiquement transition numérique ou digitale. Voilà, je dirais, l'enjeu et la passion des 13 000 collaborateurs aujourd'hui du groupe.
La maîtrise des risques, et risques avec un gros S, parce que vous êtes sur plein de chantiers, plein de fronts d'action, j'ai envie de dire. Vous recherchez beaucoup de gens. Historiquement, l'année dernière, vous avez cherché à recruter 1700 personnes. Là, vous recherchez à nouveau 1600 personnes. Vous l'avez dit, vous êtes 13 000 en tout. On est évidemment en France. Vous maillez le territoire avec pas mal d'agences, puisque ce sont des agences qui vous présentent dans les territoires. Mais vous êtes aussi dans 45 pays. Où est l'urgence du recrutement? C'est chez nous, en France, ou un peu partout ailleurs?
Elle est un petit peu partout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe a adopté en 2020 un plan stratégique ambitieux de croissance et de développement, croissance de nos activités. Et donc, pour soutenir évidemment cette croissance, on a besoin de recruter des nouveaux talents dans tous les domaines. Donc beaucoup d'ingénieurs et de techniciens, d'un domaine technique, d'électricité, de mécanique, de levage, de pression, mais aussi des consultants en santé-sécurité, des experts de risques numériques, de cybersécurité, des personnes passionnées par le carbone. Donc on a besoin, je dirais, d'intégrer ces nouvelles compétences, que ce soit de jeunes diplômés ou des gens à compétences plus avérées, de les intégrer dans nos équipes pour répondre aux besoins de nos clients, qui sont des besoins besoins qui sont des besoins croissants, qui sont liés en fait à l'évolution du monde et aux transitions que nous gérons. Et ces transitions, elles ont besoin de confiance, elles ont besoin d'assurance, et c'est ce à quoi nous contribuons.
Vous l'avez dit, des ingénieurs encore et toujours spécialisés dans plein de domaines, les infrastructures évidemment, mais aussi côté technique, électricité, mécanique. Vous avez parlé, il faut parler des profils techniciens que vous recherchez, mais aussi côté immobilier, des profils de diagnostiqueurs.
Tout à fait, ça va du diagnostiqueur amiante, nous faisons des diagnostics de performance immobilière qui sont beaucoup d'actualité en France notamment, mais nous avons aussi des besoins d'accompagnement des métiers de la construction, les besoins d'accompagnement du métier du nucléaire pour lequel il y a des besoins importants, et donc nous sommes concernés par ces évolutions, par ces transitions, et on a besoin de ces compétences. Alors on doit attirer ces talents et puis les former selon leur niveau de compétences, qu'ils soient jeunes diplômés ou techniciens ou plus expérimentés, nous les intégrons avec des parcours de formation qui sont designés de façon spécifique, particulière, pour les faire monter en compétences. Et vous pouvez répondre et participer à des missions, je dirais, simples au démarrage, et puis en fonction de l'évolution de vos compétences, de vos expertises, eh bien vous montez en gamme et vous allez sur des missions de plus en plus expertes d'assistance technique, de conseil auprès de clients, que ce soit en France ou à l'international.
Philippe, on va conclure le portrait d'APAV. Vous recrutez vous aussi dans les territoires. Alors peut-être pas dans le Périgord, ça a interpellé le Périgord, on va peut-être y revenir. Mais vous recrutez notamment en Bretagne, en Occitanie ou d'autres?
Oui, en fait, nous recrutons partout en France puisque nous avons un maillage quasi exceptionnel de proximité avec 130 agences territoriales. C'est comme ça que nous les appelons. Et donc, nous recrutons dans l'ensemble des régions. Évidemment, la région Île-de-France ou la région Auvergne-Rhône-Alpes sont sans doute en tête en matière de nombre de recrutements, mais toutes les régions sont concernées. Alors, nous attendons, je dirais, les candidatures.
Voilà, vous dites que vous postulez de la part de BFM Business, vous dites que vous avez vu Philippe à la télé, vous l'avez entendu à la radio ou en podcast. Une adresse pour postuler, c'est le site d'apav-emploi.com, vous allez retrouver les offres. On a parlé de 1600, vous l'avez dit, Philippe, vous cherchez aussi bien des juniors que des seniors. On imagine les expertises qu'il faut, notamment côté nucléaire, il faut en parler autour de vous si jamais vous pouvez trouver des profils qui pourraient correspondre aux besoins de Philippe. Ça se passe sur ce site, et puis d'ici quelques minutes, vous allez trouver l'interview de Philippe et celle d'Ève sur nos réseaux sociaux et puis bien sûr sur notre plateforme de vidéos à la demande et de podcast. Quelques questions pour vous pour finir le portrait de vos boîtes respectives. Difficile de vous comparer, on est sur une boîte toute jeune et une boîte qui a plus de 100 ans, on est dans deux secteurs différents. Néanmoins, en tant que recruteur, vous êtes confronté à des problèmes communs. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire où vous espérez que chacune de vos boîtes soit dans 5 ans? On démarre par la plus jeune, par vous, les opticiens mobiles, dans 5 ans, où est-ce que idéalement la société est?
Alors, dans 5 ans, on est en France, on est bien implanté en France et chacune des personnes qui fait appel à nous va avoir une réponse en moins de 48 heures.
Et vous, Philippe, dans 5 ans?
Eh bien, écoutez, j'espère qu'on aura doublé de taille et que la France pèsera un peu moins dans nos activités parce que nous visons un développement à l'international plus important que celui que nous espérons en France.
Alors, une question en matière je dirais, l'image de votre entreprise respectivement. La qualité qui définit votre boîte d'un point de vue humain, RH, qu'est-ce que c'est? APAV, la plus vieille en premier.
C'est l'expertise, c'est la réputation de nos techniciens, de nos ingénieurs, de nos collaborateurs depuis plus de 150 ans, qui est finalement le premier véritable atout du groupe et que nous souhaitons évidemment maintenir, préserver et si possible développer.
Ève, la qualité qui définit le mieux les opticiens mobiles selon vous?
Je pense qu'il faut juste demander à nos clients le taux de satisfaction. 4,8 sur 5 sur avis vérifié. Aujourd'hui, nos clients sont satisfaits de nos services et nous recommandent. Et c'est ce qui fait aussi grandir notre réseau.
Vous avez tous les deux parlé de formation. Pour conclure, on comprend que c'est essentiel dans vos métiers, dans vos secteurs qui sont très différents. Quelle est la collaboration avec les établissements scolaires ou les centres de formation pour vous chez les opticiens mobiles, Ève?
Alors nous, on fait connaître ce nouveau métier auprès des étudiants dès l'entrée dans
ce nouveau métier d'opticien mobile,
exactement. C'est vraiment un métier dans le métier, donc qui comporte toute la technicité de l'optique, toute la dimension liée à la vision du patient, et puis derrière toute la coordination que l'on va faire auprès des aidants et des soignants.
Et chez vous, Philippe, c'est pas facile parce que vous touchez tellement d'expertise, mais quelle est la collaboration avec les établissements scolaires?
Évidemment, nous devons être très présents auprès des écoles et des établissements scolaires pour présenter nos métiers, accueillir des stagiaires, stagiaires. Et puis aussi, ce que nous accélérons depuis quelques mois, développer des formations en alternance, en apprentissage, pour être capable de contribuer finalement à avoir un vivier de personnes et de collaborateurs formés et que l'on peut intégrer dans l'entreprise si on a des besoins. Donc ce sont des relations extrêmement importantes et clés pour pouvoir bien recruter et pour pouvoir bien faire comprendre et connaître les métiers associés à ce domaine passionnant qui est celui de la maîtrise des risques.
J'espère qu'on est suivi à la radio ou en direct dans les territoires. En tout cas, le Périgord et la Bretagne, représentés par Julien et Amandine, vous saluent. Une question qui s'applique peut-être pour vous deux pour conclure, c'est Ramila sur LinkedIn qui nous écrit, qui nous demande, est-ce que vous recrutez des indépendants? Alors peut-être que c'est plutôt pour vous cette question, Eve, dites-nous.
On recrute des indépendants, on recrute tout opticien qui s'intéresse à notre modèle aujourd'hui.
Et vous, est-ce que peut-être pour les consultants seniors, ça peut être une forme de collaboration?
Oui, de façon exceptionnelle, mais nous préférons avoir des collaborateurs que nous pouvons, pour lesquels nous avons un parcours de formation, d'intégration, d'accompagnement, de tutorat et de montée en compétences. Donc c'est plutôt, notre modèle privilégié est quand même plutôt le recrutement de collaborateurs à temps plein à PAV.
Voilà, ben merci à tous les deux, Eve et Philippe, d'être venus parler de votre boîte, de parler de vos équipes, des territoires et de nos expertises en France. C'est ce qu'on sait faire. Vous aussi, vous recrutez, eh bien vous venez en parler avec moi et toute l'équipe et avec nos auditeurs, vous voyez, qui réagissent en direct. On ne s'arrête pas, on va enchaîner sur notre partie questions-réponses. Le sujet, pas rigolo, vous allez me dire, mais essentiel pour toutes les entrepreneurs et les entrepreneuses qui nous suivent, c'est la faillite, mais surtout le rebond. Un mandataire judiciaire, Christophe Basse, me rejoint. On va parler de comment rebondir dans les difficultés, quels sont les dispositifs qui existent dans notre pays et comment on peut survivre à des moments éprouvants de la vie professionnelle d'une entreprise, petite ou grosse. On est en direct sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Je vais vous le rabâcher tout le temps. Hein. On est aussi joignable en direct, donc dans le thread de ces différents endroits où vous nous consommez peut-être. On est également joignable à l'adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. Et puis sur mon LinkedIn, vous pouvez m'écrire, je lis vos commentaires, vos questions et parfois vos coups de gueule en direct à nos invités. Christophe Basse, rebonjour. Rebonjour Christophe Basse, mandataire et administrateur judiciaire. Alors on va démarrer cet exercice par vous demander de nous décrire votre métier, parce qu'il fait peur. On s'est déjà entretenu tous les deux, vous êtes un invité récurrent de cette séquence mandataire, administrateur, judiciaire, ça fait peur. Pitchez-nous vous aussi votre métier et dites-nous ce qui vous fait vibrer dans ce que vous faites.
Eh bien, c'est un très beau métier. Peut-être que ça surprendra, c'est un très beau métier. Administrateur et mandataire judiciaire, c'est une exception européenne. Il n'y a qu'en France que ce métier existe, un métier dédié aux entreprises en difficulté. Donc des praticiens, administrateurs et mandataires formés, contrôlés exclusivement pour ce type de métier. Et c'est un métier passionnant, Lorraine, parce que c'est un métier où tous les jours, vous avez des cas d'entreprises très différentes. Un boulanger le matin, une entreprise, une pharmacie l'après-midi, une société sportive, une association, une SCI, et avec la boîte à outils, la palette de solutions législatives que nous avons, eh bien, nous essayons de trouver des solutions pour sauvegarder l'emploi et permettre aux créanciers d'être réglés. Voilà, un métier passionnant.
Sauvegarder l'emploi, c'est une bien belle mission. Alors, il y a plein de préjugés qu'on va essayer de combattre pendant le quart d'heure. Vous avez des réactions, vous avez des questions, vous nous les adressez en direct. D'abord, on a cette question d'Erwan qui nous dit « Depuis le Covid, il y a beaucoup moins d'entreprises en liquidation judiciaire ». Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Comment ça s'explique? Donnez-nous quelques chiffres, expliquez-nous ce qui va nous sembler peut-être un paradoxe.
Erwan a raison, en 2018-2019, il y avait environ 50 à 55 000 procédures collectives par an. Arrive le Covid, donc début 2020, et on va tomber en 2020-2021 aux alentours de 25 à 30 000 procédures collectives par an. Ça peut paraître très surprenant, et on a beaucoup parlé de vagues, de faillites, de tsunami, et ça a été exactement l'effet contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des aides d'État extrêmement importantes, je pense aux prêts garantis par l'État, le PGE, hein, plus de 150 milliards ont été injectés par les banques dans les entreprises françaises avec la garantie de l'État derrière ces crédits. Il y a eu des aides de chômage partiel et autres. Ce qui fait que les entreprises qui connaissaient peut-être quelques difficultés ont vu cet apport de trésorerie arriver, ces aides d'État massives arriver. Et donc, mécaniquement, le nombre de faillites a fortement diminué pendant toutes les années Covid.
En 2022, on compte presque 30 000 liquidations judiciaires, un petit peu moins de 8 000 redressement judiciaire. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous décrire la différence entre une liquidation, on plie, on termine, on ferme, et un redressement?
Bien, c'est exactement ça. La liquidation, c'est la fin d'une aventure, la fin d'une entreprise. l'activité s'arrête, il n'y a plus aucune poursuite d'activité et donc on ferme, on vend, on rend liquide. Le redressement, comme ce dont l'a dit, le redressement ou la sauvegarde, hein, ce sont les deux mots qui sont employés, ce sont des procédures au contraire qui vont observer l'entreprise pour essayer de trouver une solution de remboursement des créanciers dans des délais qui ne peuvent dépasser 10 ans. Voilà, donc en redressement, l'activité continue, on cherche une solution de paiement, en liquidation, on passe à autre chose.
Annalisa, notre productrice, nous envoie un chiffre hein, pour ceux qui nous suivent en images, c'est 700 000 entreprises qui ont bénéficié d'un prêt garanti par l'État depuis 2020. 700 000, 800 000, on trouve un peu des chiffres approximatifs. Vous diriez quoi, vous ?
Alors, sur les éléments nous, qui nous sont communiqués donc par Bercy, hein, par le ministère de l'Économie et des Finances, on est à plus de 800 000 prêts garantis par l'État qui ont été accordés pour environ effectivement 150 milliards d'euros.
150 milliards d'euros, c'est quand même dire ces chiffres. Hein.
Ouais. Ah oui, 150 milliards d'euros. Beaucoup de toutes petites entreprises hein, qui ont été aidées. Et pour ces petites entreprises, c'était aussi par ces prêts garantis par l'État, pour la première fois, la possibilité d'avoir accès au crédit sans avoir une caution personnelle. Et donc, pour les entreprises, la possibilité de se recréer avec l'effet Covid, de trouver des solutions pour essayer de pallier donc ces difficultés liées à la crise sanitaire.
Alors, vous avez connu des difficultés, certains d'entre vous nous ont écrit, et puis il y a beaucoup de questionnements sur le dispositif de ces procédures collectives. D'abord, Jean-Louis nous demande si elles sont efficaces. Alors, par procédure collective, on rappelle, hein, on veut dire la liquidation, on veut dire le redressement judiciaire. Est-ce que vous avez de quoi illustrer le fait que ces procédures, elles permettent de sauvegarder de l'emploi ? C'est la question de Jean-Louis qui nous a écrit avec vous à bfmbusiness.fr.
Alors, pour répondre à Jean-Louis, il faudrait regarder aussi comment cela fonctionne dans nos pays voisins. Et il y a plusieurs études, dont une récente en 2021, qui a comparé la performance des procédures collectives dans 6 pays en Europe, les pays les plus importants. Et la France se place de manière vraiment en tête en performance, que ce soit en coût de procédure, que ce soit en sauvegarde de l'emploi, ouais, que ce soit en taux de recouvrement des créances, et même les délais et la durée des procédures. Tous ces chiffres montrent que les procédures collectives à la française permettent de sauvegarder l'emploi. En France, 70% de l'emploi est sauvegardé. Ça concerne quand même, Lorraine, chaque année à peu près 250 000 emplois.
Hein. 250 000 personnes, on peut aussi le dire comme ça.
250 000 ménages, ménages, absolument. 70% de l'emploi va être préservé par nos procédures collectives. Dans un pays très voisin, frontière avec le nôtre, c'est moins de 10%. Donc on voit vraiment qu'on a un système qui permet aux chefs d'entreprise, à l'entreprise, de se recréer, de se renouveler. Certes, avec un effort qui est imposé auprès des créanciers, mais en France, ça fonctionne.
En France, ça fonctionne pas trop mal. On salue au passage 60 millions de rebonds, hein, qui est un endroit vers lequel on peut se tourner, une association qui accompagne les gens dans la détresse. Et je vous renvoie aussi au passage sur l'URSSAF, l'URSSAF.com, qui est une plateforme d'open data. On peut trouver plein de chiffres autour de ces histoires de redressement judiciaire, de faillite à jour. C'est des bons outils pour prendre le pouls de notre pays. On va parler de rebonds. On a notamment Alban qui nous écrit « Les procédures de prévention n'ont jamais connu un tel succès en 2022 ». Vous venez de nous le dire. 7500 entreprises en ont bénéficié. Alors pourquoi ces procédures préventives sont désormais privilégiées par les chefs d'entreprise ? Bon, on sent qu'Alban, elle sait de quoi elle parle. Décrivez, vulgarisez-nous un peu ce que nous dit Alban.
Oui, la prévention des entreprises en difficulté, ça a deux noms un peu surprenants, la conciliation et le mandat ad hoc. Ce sont ces deux procédures qui existent et qui ont un mérite et un avantage très important par rapport à la procédure collective, c'est que ces deux procédures de prévention sont confidentielles. Ça permet de préserver tant l'entreprise que les créanciers d'ailleurs qui participent à cette conciliation ou à ce mandat ad hoc. Et donc, les travaux qui sont faits, les échanges, les réchelonnements restent totalement confidentiel, sous l'égide d'un conciliateur ou d'un mandataire ad hoc, qui est un administrateur ou un mandataire judiciaire, sous le contrôle du président du tribunal, mais de manière totalement confidentielle. 80% de ces procédures de prévention trouvent une sortie favorable. Donc c'est vrai que c'est un réel succès. Vous l'avez dit, Lorraine, 7500 procédures en 2022, avec des leviers qui sont forts dans la négociation, notamment des leviers aussi liés à peut-être une procédure collective qui pourrait survenir si jamais il n'y avait pas d'accord dans le cadre de cette conciliation. Et donc les créanciers, sérieusement, raisonnablement, se mettent autour de la table pour trouver une solution et ça fonctionne. fonctionne très bien.
Bon, privilégié par les chefs d'entreprise au masculin, au féminin, vous avez vu, c'est Alban qui nous questionne. On va rebondir quand même, on va parler, ces chiffres de l'Observatoire du rebond 2021. Concernant les employeurs en faillite, 42% rebondissent dans le salariat, 43% dans l'entrepreneuriat et le reste n'ont pas encore rebondi. Comment on peut commenter ces chiffres ? On est un employeur, on fait faillite, presque 40% qui part en fait trouver un boulot salarié. Qu'est-ce que ça dit ?
Oui, alors, et vous l'avez dit, Lorraine, tout à l'heure, il y a des associations comme 60 000 rebonds qui existent et qui font un travail formidable pour ces chefs d'entreprise qui ont connu la procédure collective et qui veulent rebondir. Il est vrai qu'un chef d'entreprise, quand il arrive dans une procédure de liquidation judiciaire, notamment, il ne se paye plus depuis de nombreux mois. Et donc, il va aller chercher par priorité la sécurité de l'emploi, d'où souvent un emploi salarié pour faire face aux échéances de la vie que nous connaissons tous, et donc il va sécuriser une rémunération mensuelle, et donc beaucoup de chefs d'entreprise rebondissent aussi dans le salariat, mais évidemment ça les pince quand on est chef d'entreprise, quand on crée son entreprise, on a envie d'y revenir. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'incapacité, et donc le temps d'être salarié, souvent pour ces chefs d'entreprise, est un temps normal pour recréer, pour se réinventer et peut-être recréer une entreprise et donc recréer de l'emploi aussi de leur côté.
On a pas mal de commentaires qui tombent en direct, mais on a Karem qui nous écrit « Mon entreprise a survécu grâce au PGE ». Voilà, si vous aussi, vous avez survécu grâce au PGE, partagez avec nous comment ça s'est passé. On réinvitera Christophe pour articuler une réflexion sur des cas concrets, mais aussi voilà, sur la situation d'un point de vue un peu plus macroéconomique. On va conclure quand même sur le mot que vous avez prononcé tout à l'heure, « confidentialité. On le sait, en France, la faillite est encore vécue trop souvent comme un échec. Cette dimension de confidentialité et ce rapport à l'échec, comment vous trouvez qu'il a évolué au fil de votre carrière? Alors, vous n'êtes pas très très vieux, Christophe, mais quand même, si. Vous avez quand même plusieurs années au compteur et beaucoup d'entreprises accompagnées. Comment, là, d'un point de vue un peu philosophique, psychologique, culturel, vous trouvez que ça a changé en France?
Alors, l'échec en France, on a toujours du mal à le surmonter. Je crois que ça commence dès l'école, avec une notation. On est beaucoup moins à l'aise là-dessus. Et c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, l'échec est une expérience en soi. L'échec est une valeur qui se rajoute au CV d'une personne. En France, l'échec reste encore très infamant. Et on a beaucoup de mal à combattre cette idée, malgré, encore une fois, ces procédures collectives qui permettent de rebondir. Bon. Alors, oui... vous l'avez redit, cette confidentialité permet aussi qu'il n'y ait pas un prisme sur ce chef d'entreprise comme un chef d'entreprise défaillant à la connaissance de tous, à la connaissance de ses voisins. Et donc, ces procédures de prévention qui continuent à se développer, qui continuent à se renforcer, permettent très sereinement à un chef d'entreprise, encore une fois, de manière tout à fait discrète, mais officielle avec... un conciliateur avec ses créanciers, de ne pas perturber l'écosystème de l'entreprise et de trouver une solution, encore une fois, en ton de confidentialité. Et vraiment, on est très attaché à cette confidentialité. C'est une confidentialité, pour tout vous dire, Lorraine, qui touche même les médias que vous êtes. Oui. Il y a beaucoup de très grosses entreprises aujourd'hui qui font l'objet de procédures de prévention. On ne le sait pas, elles vont s'en sortir et c'est tant mieux ainsi.
Merci beaucoup Christophe Basse, mandataire et administrateur judiciaire, d'avoir été avec nous pour répondre à vos questions, auditeurs. Alors, comme nos auditeurs, nos auditrices, vous avez une question, une réflexion, vous nous l'adressez sur les réseaux sociaux ou à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. J'y réponds tous les matins dans Good Morning Business à 6h40, 7h40 si vous êtes matinal, mais aussi en direct à la mi-journée, c'est 13h en direct, YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook, et évidemment tous nos différents canaux classiques, radio et TV, parce qu'il y a encore des gens qui nous écoutent à la radio et à la télé. Mais on salue ceux qui nous écoutent en podcast. Le programme de demain, on sera avec une chasseuse de tête. Pourquoi les seniors font-ils peur aux entreprises? Voilà le sujet du jour demain. Le recrutement des seniors est-il une solution face à la pénurie de candidats? On en parle demain dès 13h. Je vous envoie vers la suite de notre programme. D'ici une minute, on est un peu en retard, c'est le meilleur des experts. Et puis à 14h, on est mercredi, vous allez retrouver Tech & Co. Voilà, très bonne fin de journée et merci à toute l'équipe. À demain.
BFM Business présente Lorraine Goumeau. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie.